Tu as été coupable. Prends ton point total. Tu es fou enfermé. Raison déconnecté. On t'attache à ton lit. Tu hurles dans ton délire. Tu ne peux plus agir. C'est cela la médecine. Des couloirs trop blancs. Bois ton médicament. Tu es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà la traveneuse. Ta solution aqueuse. Si c'est ça la médecine, je préfère la guillotine. Si c'est ça la médecine, je préfère la guillotine. Si c'est ça la médecine, je préfère la guillotine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste PC. L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme chaque mercredi pratiquement. Et nous... c'est Sylvie qui est avec moi aujourd'hui. Sylvie,
salut tout le monde.
Du groupe Libertaire d'Ivry. Et nous allons parler d'un livre... Nous allons commencer à explorer un livre critique du pouvoir médical, un livre intitulé « Les brutes en blanc » dont l'auteur est Martin Winkler. Une petite rapide biographie de l'auteur. Né en 1955, Martin Winkler a exercé la médecine générale en France de 1981 à 2008. Romancier, essayiste et critique, il est l'auteur de « La maladie de Sack », « Le cœur des femmes » et « Les histoires de Franz ». Il vit désormais au Canada où il participe à la formation des futurs médecins à l'université McGill et à l'université d'Ottawa.
Donc précision que Laurent m'a donnée tout à l'heure. Ce livre est toujours disponible, on peut le commander à la librairie Publico, par exemple. Et il y a eu un film qui était tiré de son livre « La maladie de Sack ». Il semble que l'auteur était politiquement assez engagé, en particulier dans le féminisme, sur la question du féminisme. Voilà.
Alors, juste... quelques extraits qu'on pourra commenter au fur et à mesure. Avertissement. Je n'ai de leçons à donner à personne. En revanche, j'ai des expériences et des réflexions à partager, des opinions et des valeurs à défendre, à commencer par la vision que j'ai de mon métier et des obligations qui en découlent. Depuis mes études de médecine en 1973, j'ai assisté à bon nombre de méfaits commis par des médecins. Très naturellement, j'en parle dans mes livres. Régulièrement, j'entends des praticiens offusqués me reprocher de n'être que généraliste ou, depuis 2009, de ne plus pratiquer la médecine. Les deux reproches sont équivalents, ils signifient « De quel droit nous critiquez-vous alors que vous n'êtes pas ou plus des nôtres ? Vous ne savez pas en quoi consiste notre travail, vous n'avez pas le droit de nous juger, vous n'êtes pas ou plus un vrai médecin ?» En suggérant que mon professionnalisme serait insuffisant pour que mes critiques soient crédibles, ils pensent me disqualifier, et cela me fait sourire.
Juste une remarque que m'envoie Laurent. Son livre, ce livre-là, a été dénoncé par le Conseil de l'Ordre des médecins comme ayant pratiqué la caricature et l'amalgame, on se doute que ça n'a pas dû leur faire plaisir, vu le thème, oui. Et de généraliser l'ensemble de la profession, les dérives de quelques praticiens. Je demande à voir, parce que en effet, il y a des critiques comme ça qui peuvent être tout à fait structurelles, et je pense que en plus, comme on a tous et toutes eu déjà affaire à des médecins, on peut quand même se dire soi-même qu'il y a des critiques qu'on pourrait, enfin, on est à même de constater ce qu'il en est. Enfin, par rapport à l'idée de la psychiatrie, tout le monde n'a pas forcément été confronté à des psychiatres. Enfin, tu sais que je pense qu'il n'y a pas d'amalgame à faire. Pour moi, ils sont tous à mettre dans la même poubelle, mais bon. Mais en ce qui concerne les médecins, même si indéniablement on en a besoin, leur attitude, je crois qu'on y a tous été confrontés, on a pu constater nous-mêmes.
Oui, d'ailleurs, cette question de la généralisation ou non de cet état des choses est assez souvent évoqué dans le livre. Mmh. Alors, donc voilà, on lui reproche de ne plus être assez professionnel pour critiquer la profession. Car quand on y réfléchit, pourquoi serait-il indispensable d'être médecin pour pointer du doigt les failles de la profession? Donc c'est cela qui le fait sourire, donc.
Bien vu, comme je viens de le dire, même en tant que patient, on est bien. Enfin, je m'adresse à tous les auditeurs. Disons que la différence avec les psychiatres, c'est que les médecins, on en a éventuellement besoin réellement, alors que les psychiatres, non. Mais en même temps, le fait est que même en tant que patient absolument inculte, on est quand même amène de constater toutes leurs lacunes et toutes leurs pratiques, plus que discutables, hein, pour être gentil, par rapport aux patients. Il suffit d'être un patient et tu discutes avec des gens sur les dérives dont ils ont été victimes, et je crois que tu peux recueillir que beaucoup de témoignages, hein, non ? C'est vrai.
Alors, dans un pays qui se dit démocratique, lorsqu'un groupe est censé servir le public, tout citoyen est en droit de le critiquer. A fortiori... Oui. Bon, la notion de citoyen chez nous, elle est un petit peu... Bon, c'est pas... Bref. A fortiori, lorsque certains membres de ce groupe sont d'authentiques malfaiteurs. Je préciserai donc que ce n'est jamais en confrère que j'énonce mes reproches, mais en parents, conjoints, amis, fils, frères, de patients et patients lui-même, c'est-à-dire en citoyens. Ma légitimité à les blâmer n'est donc pas discutable. Si certains se considèrent comme inattaquables parce qu'ils sont médecins, ils se fourrent le doigt dans l'œil. L'autre reproche que l'on m'a souvent adressé était de trahir la profession par mon attitude anticonfraternelle. Il me semble donc indispensable de rappeler sans ambiguïté quelle valeur je défends. Soigner, ce n'est pas seulement prescrire des médicaments à ceux qui souffrent, c'est aussi les épauler et, le cas échéant, prendre la parole haut et fort à leur côté, face à celles et ceux qui les maltraitent, qu'il s'agisse de l'État, des institutions, des membres de leur famille ou de certains médecins. Ma loyauté première va toujours aux patients, car c'est ce que dictent mes obligations professionnelles. La trahison, à mon sens, consisterait à les faire passer en second. Si la confraternité consiste à apporter une aide professionnelle ou un soutien moral, rien n'est plus respectable. Si elle consiste à défendre les intérêts des médecins contre ceux des patients, c'est une attitude crapuleuse et indéfendable. Ce point étant éclairci, passons à l'essentiel. Préambule. À celles et ceux qui n'ont pas la parole. J'ai toujours pensé que soigner, c'est faire du bien, que l'on devient médecin pour soigner et que, pour cette raison, un médecin a un rôle important à tenir dans la cité. J'ai toujours pensé ça. C'était naïf, mais j'avais de bonnes raisons d'y croire. Le premier médecin que j'ai rencontré, mon père, était un homme bon et un bon médecin. Son cabinet de consultation était au rez-de-chaussée de la maison. Jusqu'à l'âge de 17 ans, il m'est arrivé plus d'une fois de l'accompagner dans sa voiture quand il partait en visite, de prendre les appels ou d'ouvrir la porte aux patients, et j'ai pu observer de près son comportement et les relations qu'il établissait avec eux. Il parlait volontiers de son métier, de ses études, des situations qu'il avait rencontrées, et très tôt, j'ai compris qu'il était guidé par des idées simples. Quand les gens souffrent, il faut faire de son mieux pour atténuer leur mal. Le rôle d'un soignant, c'est faire en sorte que la personne qui entre se sente mieux en sortant. Plus tard, j'ai été aide-soignant dans le service dont il était responsable, à l'hôpital local de Pithiviers, et j'ai vu qu'on ne soigne pas tout seul, mais en équipe, et qu'une équipe soigne bien quand chacun de ses membres y est respecté. Plus tard encore, j'ai compris que pour soigner, il importe d'abord et avant tout de ne pas nuire. C'est du simple bon sens. Quand quelqu'un se casse une jambe, le premier geste de soin consiste à l'immobiliser afin que les mouvements ne le fassent pas hurler de douleur. Par conséquent, ce qui doit guider le soignant, c'est ce que ressent la personne qui souffre. Depuis l'adolescence, j'essayais, par écrit, d'exprimer mes propres tourments. D'expérience, je savais qu'il n'est pas toujours facile de formuler ce qu'on ressent. Et qu'on ne se confie pas à n'importe qui de crainte de voir ses émotions tourner en dérision ou prises à la légère. Alors quand, sur le pas de la porte, j'entendais un patient murmurer « Merci docteur, ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler », je mesurais combien l'écoute soigne celui qui en a gros sur le cœur. J'en ai déduit que, pour soigner sans nuire, il est important avant tout d'avoir le souci de l'autre et de ce qu'il éprouve. Que la confiance du patient naît du respect que le soignant lui témoigne et non de l'autorité de l'un et de la déférence de l'autre. Et enfin, que celui ou celle qui souffre sait très bien qui lui fait du bien. Ce sont ces idées simples qui m'ont donné envie de devenir médecin. En 1983, mon diplôme en poche, je crée un cabinet de médecine générale rurale à Jouy-l'Abbé dans la Sarthe. Au bout de quelques mois, je me mets aussi à travailler comme médecin vacataire à l'hôpital du Mans, où j'ai achevé ma formation clinique. Je pratiquerai des interruptions de grossesse au centre d'IVG jusqu'à la fin des années 90 et j'assurerai des consultations au centre de planification jusqu'en décembre 2008. Pendant toute ma carrière, je m'occuperai de la santé des femmes. Dans ces centres discrets, tout comme dans mon cabinet rural, ma formation et mes principes seront mis à rude épreuve. J'apprendrai qu'écouter, ce n'est pas simplement traduire les plaintes en symptômes répertoriés et que soigner ne se résume pas à traiter. Je comprendrai peu à peu que la confiance d'un patient met parfois beaucoup de temps à s'installer. Et surtout, je m'acclimaterai à l'idée dérangeante pour les médecins formés en France que soigner, ce n'est pas décider à la place du patient, mais l'accompagner et l'épauler dans ses décisions. Lentement, j'apprends à redéfinir mon rôle. Un soignant n'est pas un sauveur de vie, mais quelqu'un qui aide la plupart des patients à vivre le moins mal possible. Son objectif, faire en sorte qu'on ait besoin de lui le moins possible. Ensuite, il dit que...
Par rapport à tout ce qu'il vient de dire, enfin, je sais pas si t'es comme moi et si les gens qui écoutent sont comme moi, mais tout de suite, boum, ça fait surgir plein de souvenirs, oui. Ça évoque toutes sortes, enfin, je sais pas, toutes sortes d'expériences personnelles et tout. Et le truc qu'on dit souvent, c'est que, et en plus, c'est vrai que je l'ai constaté, mais c'est un peu pareil avec toutes les formes d'autorité, je dirais, c'est que le côté servitude volontaire, si tu veux, qui fait qu'on est formaté, en fait, à justement, contrairement à ce qu'il dit, à attendre que le médecin soit comme une espèce de Dieu le Père, quoi, tu vois, à qui on pourrait se reposer totalement, ce qui conduit souvent d'ailleurs à des catastrophes, quoi. Des gens qui se fient à un diagnostic qui est nul, parce que tu t'attends pas à ça, tu veux pouvoir te reposer totalement. Et tu vois, même sur l'idée aussi, il faut qu'on te prescrive une tonne de médicaments parce que les gens seraient pas contents. Mais en même temps, les médecins qui se réfugient derrière le fait que ce serait la faute finalement du masochisme des patients s'ils essayent de les dominer. En effet, comme il dit lui, après tout, tu peux aussi essayer de contrer cet état de choses et le refuser. Si quelqu'un, après tout, de la même manière que, admettons qu'un mec tombe sur une femme qui pense que les femmes sont inférieures, c'est pour ça que je la maltraite. T'es comme tenté de lui dire, écoute, t'es pas obligé de la maltraiter parce qu'elle s'y attend non plus. Donc tu vois, c'est vrai que c'est une espèce de d'état d'esprit général que peuvent avoir beaucoup de gens, de cette idée des mandarins, quoi, de quelqu'un qui a que tu peux te fier à 100% à ce qu'il va dire. Oui, et que s'il a l'air incertain, tu vas pas avoir confiance en lui. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Oui, il en parle un peu plus loin dans un chapitre sur. Il parle des études de médecine, etc. Je peux continuer un petit peu, mais oui, tout à fait. C'est tout à fait d'accord avec toi, oui. Alors, en 2009, alors que je viens de m'installer au Québec, je rédige Le cœur des femmes, le cœur comme un cœur d'un chant, les chants. Un roman qui transpose et synthétise 25 années d'expérience dans ce que j'appellerais désormais la santé des femmes. C'est au Québec que j'ai choisi d'adopter ce terme plutôt que celui de gynécologie courante, car les femmes m'ont parlé de beaucoup d'autres choses que de leur appareil reproductif. Pour rédiger l'un des chapitres du roman, je retourne à mes boîtes courriel. Je découvre avec stupéfaction que depuis l'ouverture de mon site en 2003, j'ai reçu près de 10 000 messages. Alors, le site, c'est Winkler's Webzine, donc qu'il a créé en 2003. Bon nombre de ces courriels me posent des questions sur la contraception, me demandent des précisions sur les articles que j'ai postés et en profitent pour me raconter leur expérience. C'est vrai qu'il a écrit aussi un bouquin qui a eu beaucoup de succès sur la contraception. Beaucoup de ces témoignages sont terribles et brossent un tableau assez effrayant des relations de soins en France. Ils décrivent le comportement de praticiens et de praticiennes, entre guillemets, spécialisés dans la santé des femmes, gynécologues, obstétriciens, généralistes, sages-femmes, mais aussi de professionnels de tous les domaines de la santé, libéraux ou membres du service public. Des paroles, attitudes, gestes et postures, le plus souvent à mille lieues de ce qu'on est en droit d'attendre d'eux. Je n'étais pas vraiment surpris, j'avais fait l'expérience directe ou indirecte de la maltraitance médicale française dès mon arrivée en faculté de médecine. Je l'avais observé à chaque étape de ma formation et pendant toute ma carrière de praticien, j'avais pu constater que nombre de missions étaient ignorées ou bafouées, voire tournées en ridicule par ceux-là même qui disaient œuvrer pour le bien des malades. Et les transgressions que j'avais observées, les courriels les rapportaient depuis toutes les régions de France. Certes, il y a partout en France de très bons soignants, de très bons services, de très bonnes équipes. Mais il y a aussi beaucoup trop de professionnels de santé et de comportements maltraitants. Donc oui, il dit qu'il y a beaucoup trop de professionnels de santé.
C'est le truc qui me revient justement par rapport à l'aspect même général, pas seulement parce qu'à entendre donc l'ordre des médecins, ce serait quelques brebis galeuses dans les coins. Moi, il y a un truc, ça m'avait tellement marqué que j'en avais même fait un article dans Le Monde Libertaire, tu vois, par rapport à l'idée du racisme, on va dire, ordinaire. C'était en 2002, après que Le Pen soit passé pour le deuxième tour, tu sais. Ouais. Et à ma grande surprise, d'ailleurs, je vais voir une gynécologue de l'hôpital où j'avais accouché pour un truc de suivi, tu vois. C'est la première fois que je la voyais et je la vois dans tous ses états. C'était le lendemain du deuxième tour et elle m'entreprend. Alors en plus, tu sais, t'es quand même dans une posture pas facile, je veux dire, pour polémiquer quand t'es face à une gynécologue qui vient de te planter un spéculum, tu vois. Mais bon, elle commence à m'entreprendre, genre bon, je suis une blanche, elle peut y aller, etc. Puis je sais pas, elle avait dû me calculer comme quelqu'un qui était pas du style à voter à l'extrême droite. Elle dit oh là là, je suis dans tous mes états, Le Pen au deuxième tour, Le Pen au deuxième tour. Puis elle me dit, en même temps, on en a discuté dans l'hôpital. Donc, je précise que cet hôpital qui n'existe plus était l'hôpital Jean Rostand, qui desservait quand même Ivry et alentour. Donc, si tu veux, c'était un hôpital où venaient effectivement des gens de milieux défavorisés. Et elle me dit, bon, quand même, on en a discuté avec l'équipe. Et vous avez quand même bien remarqué quand vous avez accouché que peut-être vous étiez la seule à avoir un bébé blanc. J'étais complètement atterrée, quoi. Tu vois, j'ai dit, ouais, enfin bon, à la limite, ils auraient été tous rouges, je me serais dit, tiens, enfin, mais enfin, c'est tout, quoi. Mais alors, quoi. Et elle me dit, bah oui, mais enfin, c'est pas possible. On en a parlé, au moins, ça a libéré la parole. Oui. Elle dit, parce qu'il y a ceux qui ont accepté l'idée qu'ils étaient dans l'équipe, quoi, qu'ils avaient voté Le Pen, mais que même ceux qui n'avaient pas voté Le Pen avaient dit, en même temps, il y en a trop. De noir, d'arabe, enfin de mal blanchi, quoi, en substance. Et donc, et puis qu'il y en avait marre, ils faisaient même pas l'effort, c'était des gens qui faisaient même, enfin, qui étaient des parasites, et qui faisaient même pas l'effort d'apprendre à parler français pour beaucoup. Enfin, bon, on sentait qu'elle avait vraiment la haine, alors, c'est-à-dire qu'elle était même pas dans les électeurs de Le Pen. Mais que ça avait l'élection avait libéré une parole raciste. Quand tu sais que, en effet, la plupart des gens qui étaient des femmes qui accouchaient là étaient, en effet, le genre qui plaît pas aux racistes, je me disais, waouh, enfin, tu t'imagines. Donc, parce que tu parles de l'idée qui serait neutre, si tu veux, au point de vue idée, mais est-ce que tu t'imagines ce que c'est pour des femmes comme ça, de se retrouver dans les pattes? Et en effet, après, du coup, j'avais fait attention, et j'avais vu qu'on est, et je me rappelais qu'en effet, il leur parlait mal, quoi. Il leur parlait mal, il les maltraitait, il leur reprochait tout un tas de trucs, il les brusquait, quoi, tu vois. Et je me disais, ben, t'es quand même un petit peu fragile, enfin, je veux dire, dans cette situation-là, pour les femmes, et se retrouver dans les pattes d'un personnel raciste, et c'était pas, en effet, c'était pas marginal, c'était très général. Donc c'est un exemple, mais vois, c'est pas un exemple genre, j'ai connu une brebis galeuse. Il y avait quelque chose qui allait vraiment pas, quoi. Voilà.
Oui. Alors, jusqu'à ces dernières années, les palmarès internationaux désignaient le système de santé français comme l'un des meilleurs du monde. Il était donc impossible de faire entendre la moindre critique sur une profession, je cite, que le monde entier nous enviait. C'était confondre le gros bout et le petit bout de la lorgnette. L'excellence que les enquêtes internationales reconnaissent à la France réside dans la notion avérée mais partielle qu'il est très facile d'y consulter un médecin et d'y être admis dans un service de soins. Mais ça ne veut nullement dire qu'on y est bien traité, ni même soigné tout court. Alors ensuite, il rappelle un peu les principes qu'il défend. À travers un tract qu'il avait produit en 1900, un tract qui se trouve à l'intérieur d'une fiction, d'un roman intitulé La maladie de Sage, qui a fait donc, comme tu le disais, l'objet d'un film.
Oui, c'est un film réalisé par Michel Deville, je crois. Oui.
Donc, en 1998, dans mon roman La maladie de Sachs, le protagoniste retrouve un tract rédigé pendant ses années d'études. Fidèle à l'esprit provocateur des années 70, je l'avais intitulé « Nous sommes tous des médecins nazis ». J'y écrivais en particulier « Choisir d'être médecin, ce n'est pas choisir entre deux spécialités ou deux modes d'exercice, mais d'abord entre deux attitudes, entre deux positions, celle de docteur » entre guillemets, et celle de soignant ou celle de soignant. Les médecins sont plus souvent docteurs que soignants. C'est plus confortable, c'est plus gratifiant, ça fait mieux dans les soirées et dans les dîners, ça fait mieux dans le tableau. Le docteur sait, et son savoir prévaut sur tout le reste. Le soignant cherche avant tout à apaiser les souffrances. Le docteur attend des patients et des symptômes qu'ils se conforment aux grilles d'analyse que la faculté lui a inculquées. Le soignant fait de son mieux en questionnant ses maigres certitudes pour comprendre un tant soit peu ce qui arrive aux gens. Le docteur prescrit. Le soignant pense, P-A-N-S-E. Le docteur cultive le verbe et le pouvoir. Le soignant dérouille. Quant au malade, qu'il ait l'affaire à l'un ou l'autre, il crèvera de toute façon, mais à quelle sauce? Donc c'est l'extrait du tract fictif du roman La maladie de Sac. Je ne cherchais pas alors à argumenter ou à démontrer, mais à exprimer les émotions et les colères accumulées au fil des années. Il s'agissait d'un roman, non d'un essai critique. L'heure est venue pour moi de décrire la réalité. Comme on va le voir, elle dépasse largement la fiction. J'ai eu beaucoup de chance. Le succès d'un livre m'a donné du jour au lendemain la possibilité d'exprimer publiquement des idées, des colères, des incompréhensions. Et pendant plusieurs années, j'étais l'un des rares médecins qui exprimait ces idées-là. En 18 ans, les choses ont changé. L'accès à Internet en particulier s'est beaucoup développé. Les réseaux sociaux grouillent de forums d'échange et bruissent de milliers d'alertes rapides. Les blogs donnent à tout un chacun la possibilité de s'exprimer. En court-circuitant journaux, radio et télévision, ces nouveaux médias ont aujourd'hui un effet révolutionnaire. Ils permettent de communiquer horizontalement. Cette nouvelle liberté de partager, d'échanger et de témoigner a modifié la relation des citoyennes avec toutes les institutions, à commencer par le monde de la santé. Aujourd'hui, chacune et chacun peut témoigner des maltraitances, petites et grandes, institutionnelles et privées, ponctuelles ou continues, qu'on inflige aux malades, à leur entourage et, il faut le dire, à nombre de soignants de bonne volonté. Pour autant, beaucoup de personnes maltraitées n'ont toujours pas la possibilité de se faire entendre. C'est à ces 100 voix que ce livre est dédié.
Les promesses des hommes politiques dans ton cul n'engagent que ceux qui les reçoivent dans ta chatte. Les promesses des hommes politiques dans ton cul n'engagent que ceux qui les reçoivent dans ta chatte. Donnons-nous l'objectif de vite réaliser dans ton cul 100% d'économie sur les dépenses publiques dans ta chatte. Une sanction pénale dès l'âge de 12 ans dans ton cul me semble correspondre au bon sens dans ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte, dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise, il se marre, il se moque de nous. Dans ton cul, dans ta chatte, dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise, il se marre, il se moque de nous. Ensemble, dans ton cul, tout devient possible dans ta chatte. Travailler plus dans ton cul pour gagner plus dans ta chatte. Il y a des libertés dans ton cul qui peuvent être facilement abandonnées dans ta chatte. J'ai menti dans ton cul, mais c'était de bonne foi dans ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise, il se marre, il se moque de nous. Dans ton cul, dans ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise, il se marre, il se moque de nous. Si on arrive à vivre 100 ans dans ton cul, on va pas continuer à avoir la retraite à 60 ans dans ta chatte. Si on arrive à vivre 100 ans dans ton cul, on va pas continuer à avoir la retraite à 60 dans ta chatte. La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Dans ton cul, dans ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Dans ton cul, dans ta chatte. 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 Il rit, il nous méprise, il se marre, il se moque de nous. Dans ton cul, dans ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise, il se marre, il se moque de nous.
C'est on est de retour à l'antenne avec c'était Petra Pied de Biche et nous reprenons donc la lecture et donc deux évocations là de enfin de voilà, du livre l'aura du soignant qu'est-ce que c'est, nous allons le découvrir et sur l'effet placebo il y aura quelque chose aussi. Alors, l'aura du soignant. Qu'il soit diplômé ou non, le soignant est depuis toujours investi d'une fonction sociale reconnue. Il est pour ainsi dire nimbé d'une aura particulière. Un de mes premiers patients dans le canton où j'ai exercé pendant 10 ans, était un agriculteur à la retraite. Déjà très âgé. Je l'ai d'abord vu pour des bricoles, vérifier sa tension, ajuster un traitement au long cours. Un jour, il me confia que lorsqu'il était plus jeune, il était toucheux. On dit parfois rebouteux ou guérisseur. Il, entre guillemets, arrêtait le feu. Lorsqu'une maman lui amenait un enfant qui s'était brûlé en renversant une casserole, il calmait la douleur avec quelques gestes de la main ou de prière à voix basse et une pommade de sa confection. Je lui demandais s'il faisait ça souvent et il me répondit que tant qu'il n'y avait pas eu de médecin dans le secteur, on avait fait appel à lui. Il soignait aussi les entorses, les torticolis, les lumbagos, les rages de dents. Plus tard, les adultes du village m'ont raconté qu'ils les avaient soignés quand ils étaient enfants. Ils avaient gardé pour lui le plus grand respect. À leurs yeux, même s'il était âgé et fatigué, il avait toujours son aura de toucheux. Ce que je nomme son aura, c'est la manière dont il était perçu par ceux et celles qui l'avaient soigné. C'est une construction mentale dont nous n'avons pas toujours conscience, tissée par les émotions. Quand il s'agit d'un soignant, elle est faite de reconnaissance et d'admiration, d'apaisement et parfois de crainte. Car nous associons au soignant la crainte de ce qui nous fait mal et nous ne pouvons jamais nous détacher de l'idée qu'il pourrait aggraver ce mal ou nous annoncer qu'il est irrémédiable. L'aura du soignant, nous la ressentons comme bénéfique ou maléfique selon les circonstances. Cette aura, tous les soignants la portent. Elle est d'autant plus nette que la réputation du soignant est affirmée, que les attentes à son égard sont grandes et que ses aptitudes, on devrait peut-être même dire ses pouvoirs, semblent impressionnants. Mais le fait que ce savoir et ses pouvoirs soient ancrés ou non dans des connaissances scientifiques ne change rien à l'affaire. C'est la perception des autres qui compte. L'aura d'un soignant sera d'autant plus marquante qu'elle sera avalisée par des diplômes ou des récompenses, un poste à responsabilité, une fonction dans une institution, bref, un statut social. Elle sera aussi fonction de la manière dont le professionnel se met en valeur, en parlant en public ou non, par exemple. L'aura attire les patients vers la figure d'un professionnel, celui-là plutôt qu'un autre, et les incite à lui accorder leur confiance pleine et entière, au point, nous le verrons, d'accepter de sa part des comportements inacceptables, mépris, insultes, jugements humiliants, mauvais traitements. Car il en va des professionnels de santé, comme de toutes les figures d'autorité. Leurs abus, quand ils se produisent, sont extrêmement difficiles à combattre, pour deux raisons au moins. D'abord parce que leurs victimes sont souvent dans l'incapacité de reconnaître qu'elles se font maltraiter. Ensuite, parce que les révélations émises par ces victimes rencontrent l'incrédulité, voire le déni ou le rejet par l'entourage et les pouvoirs publics. La douleur, la peur, l'effet placebo et l'effet soignant. La douleur est un phénomène complexe et subtil, indispensable à la vie ou la survie. Sans sensations douloureuses, nos corps resteraient exposés aux agressions. La peur, elle aussi, est un phénomène protecteur indispensable à la survie. Certaines, la peur des araignées, des serpents, de l'altitude, des bruits intenses et soudains, sont innées. On peut les observer chez des nourrissons de quelques semaines. D'autres sont acquises par l'expérience. Le nourrisson qui apprend à marcher, qui tombe et se fait mal, ne veut plus se remettre debout. En tout cas, pas tout de suite. Ouais, j'avais un petit commentaire à produire par rapport à la peur comme phénomène protecteur, peur des araignées, des serpents, de l'altitude, etc. La psychiatrie, enfin, l'institution psychiatrique désigne comme des phobies. Mmh. Comme des choses anormales en fait, alors que a priori c'est plutôt normal d'avoir des...
ça enfin moi par rapport à ça peurs. Parce que si ça me suscite des choses par rapport à l'effet placebo aussi, mais par rapport aux phobies de toute façon d'une manière générale, par rapport à la santé, bah moi par exemple, comme je l'ai peut-être déjà dit, je suis adepte de la rien thérapie, ça rien faire. Oui. Attendre que ça se passe, mais des fois mal m'en a pris et j'ai même regretté pour ça de ne pas, enfin tu vois, mais parce que T'es dans l'incertitude. Des fois, tu te dis, est-ce que je suis trop parano? C'est dès que t'as un petit symptôme. Est-ce que tu dois, en particulier quand t'as des enfants, est-ce que tu dois foncer chez le toubib pour un oui pour un non? Ou est-ce que tu dois laisser visser? Puis si ça se trouve, c'est un truc grave. Enfin, toi, t'es toujours un petit peu le cul entre deux chaises, comme ça, par rapport aux phobies. Il y a certaines phobies, bah, la phobie des serpents, quand t'habites en Normandie, c'est pas bien grave, tu vois. Si t'es agoraphobe, c'est-à-dire que t'oses pas sortir, c'est déjà beaucoup plus embarrassant. Tu vois, donc, même s'il y a un côté un peu irrationnel à avoir peur de, par exemple, des araignées, moi j'ai eu longtemps, enfin, je suis toujours un peu, enfin, je suis très très phobique des araignées, tu vois. Bah, il y avait des fois où franchement, ça me pourrissait un peu la vie, tu vois, pour par exemple aller faire du camping ou quoi. Laurent doit se rappeler une fois où je suis allée aux toilettes, il y a une araignée qui a monté sur mon pied et j'ai réveillé tout le camping par un hurlement épouvantable et tout. Mais enfin, je veux dire, par rapport à l'effet placebo, et par rapport à l'aura du médecin, ça va te paraître bizarre parce que je pense que l'homéopathie, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ah oui, tu voulais.
L'effet placebo, on n'en a pas encore parlé.
Hein, ah c'est... d'accord. Non, mais c'était par rapport à l'aura du médecin.
Oui.
Parce que même si tu as quand même un peu évoqué l'idée de l'effet placebo, l'aura du médecin, je pense que l'homéopathie, c'est de la poudre de perlimpinpin, que c'est des placebos, tu vois. Je le pense vraiment.
Oui.
Et en même temps, je suis à fond pour celui qui y croit.
Oui, puisque
parce
ça marche,
que hein. les médecins homéopathes n'ont absolument pas. Il y a j'avais vérifié parce que j'avais fait une recherche sur le sujet. Il n'y a quasiment pas de scandale autour de l'homéopathie. Ça paraît dingue, mais c'est vrai. Car, contrairement au bouteux d'ailleurs, un homéopathe est un médecin qui fait 2 ans de spécialité. Donc c'est un médecin. Et tous les gens que j'ai rencontrés qui avaient recours aux homéopathes ont été affirmatifs. S'il y a un truc qui ne relève pas d'un médecin généraliste ou qui est grave... Ils osent pas, si tu veux, ils savent qu'ils ont pas l'impunité quasiment structurelle d'un médecin classique, donc ils prennent pas de risques. C'est quasiment jamais arrivé. C'est très très peu arrivé qu'il y ait des drames et tout avec un homéopathe. Ça paraît dingue, mais en fait, ils te donnent un placebo, donc un médicament homéopathique, que quand tu as besoin d'un placebo. Enfin, ils se le disent sûrement pas comme ça, mais quand par exemple, il y a besoin d'un antibiotique, ils vont te donner un antibiotique, mais ils vont pas non plus t'inonder de médicaments, mais ils vont être plus prudents, et parce qu'ils savent aussi qu'on les attend beaucoup plus au tournant qu'un médecin classique, quoi. Et ils savent qu'on les méprise quand même pas mal. Enfin, c'est vrai, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup d'anti-homéopathes, beaucoup plus que d'anti-médecins traditionnels, quoi, tu vois. Donc, moi, c'est à ça que j'attribue un petit peu cette relative humilité. Et puis, il y a un truc que m'ont dit tous les gens qui y avaient recours, c'est un peu plus cher, mais ils écoutent les gens. Et tu payes finalement le fait qu'il te demande comment tu manges, comment tu vis, si tu as des problèmes en ce moment, que tu peux leur parler. Alors que moi, par exemple, mon médecin traitant, je peux te dire que c'est de l'ordre de l'image subliminale. Tu me vois plus, hein, vraiment. C'est vraiment l'usine, quoi. Donc, voilà. Donc, vas-y, sur les
faits. La douleur, la peur, la douleur et la peur sont intimement liées. La douleur accentue la peur et la peur accentue la perception et l'intensité de la douleur. On en déduira donc qu'une personne a plus mal quand elle a peur que quand elle est rassurée. On en déduira aussi qu'un professionnel de santé qui rassure soulage mieux et fait moins mal qu'un professionnel qui fait peur. Des phénomènes inconscients peuvent également modifier la sensation de douleur en l'aggravant ou au contraire en la calmant. C'est ce qu'on appelle les effets placebo et nocebo. L'effet placebo est un phénomène aujourd'hui bien étudié et dont la puissance est connue. Si l'on administre un placebo à une personne qui souffre en lui disant qu'il s'agit d'un antidouleur puissant, on produit un effet antidouleur. Il ne dure pas, mais il est mesurable par le patient lui-même. Même si les mécanismes restent encore mal élucidés, on peut dire en première approximation que l'intention et l'attitude du soignant produisent dans le cerveau du patient la sécrétion d'endorphines, une morphine naturelle. Ce n'est pas difficile à comprendre. La peur nous fait produire de l'adrénaline qui accélère le cœur et nous met en alerte. Le rire ou l'orgasme nous emplissent d'une sensation de bien-être et de plaisir. Il n'est donc pas difficile d'admettre que notre corps est capable de s'auto-soulager si on lui applique le stimulus approprié. Cette capacité à calmer nos propres douleurs, nous la mettons à l'œuvre chaque jour, par exemple en nous concentrant sur une tâche très précise qui détourne notre attention des sensations désagréables. Et cet effet peut être véhiculé par des artifices divers. Des recherches ont montré que si on donne à des volontaires des gélules vides en leur disant qu'elles contiennent un somnifère, la couleur de la gélule participe à l'effet placebo. Les gélules bleues vont faire mieux dormir que les gélules rouges ouvertes. L'effet nocebo agit en sens inverse. Quand on donne des gélules vides à des volontaires en leur disant qu'ils auront peut-être des maux d'estomac, les gélules rouges en provoquent plus souvent que les vertes ou les bleues. Et comme l'effet placebo, l'effet nocebo est accentué par l'attitude du soignant. Tout le monde est sensible à ces effets, même les médecins. Quand j'étais adolescent, je faisais souvent des angines et mon père me traitait par une combinaison particulière de médicaments, un antibiotique et un anti-inflammatoire, qu'il me faisait prendre pendant une semaine. À l'âge adulte, alors que mon père était mort depuis plusieurs années, j'ai refait une angine carabinée. Les angines des adultes sont virales et ne nécessitent pas de prendre des antibiotiques. Je me suis donc contenté d'avaler des antidouleurs. Au bout de 2 jours, comme je continuais à souffrir le martyr, j'ai ouvert ma réserve de médicaments et j'ai pris les comprimés que je prenais enfant. 20 minutes plus tard, je n'avais plus mal. Or, en 20 minutes, l'estomac n'a même pas le temps d'absorber des médicaments. Ce qui avait fait disparaître la douleur et probablement l'anxiété qui l'avait rendue si vive, c'était l'effet placebo. L'effet placebo n'est pas produit par le médicament lui-même, ni à proprement parler par la personne qui le conseille, le prescrit ou l'administre, mais par la perception qu'en a la personne qui le prend. Autrement dit, quand on fait confiance au soignant, tous ses gestes ont un effet placebo. Quand le soignant nous fait peur, tous ses gestes nous semblent nocifs. En Grande-Bretagne, juste après la Seconde Guerre mondiale, le psychiatre hongrois Michael Balint créa des groupes de parole réunissant des professionnels de santé de première ligne, médecins généralistes, infirmiers, infirmières, psychologues. Dans ces groupes Balint, encore trop peu répandus en France mais très courants en Angleterre et en Allemagne, des praticiens décrivent les relations complexes qu'ils ont avec certains patients. Ces rencontres mensuelles se révèlent extrêmement gratifiantes pour les participants. Ils y découvrent que tous les soignants ont les mêmes difficultés. Ils apprennent à identifier ce qui, dans leur propre personnalité, les rend vulnérables à certaines situations de soins. Ils deviennent plus détendus et moins autoritaires. Enfin, en écoutant leurs camarades, ils apprennent à mieux écouter les patients. Dans Le médecin, le malade et la maladie, livre qui expose ses conceptions du soin, Michael Balint écrit « Le premier médicament du médecin, c'est le médecin lui-même. » Dans toute relation de soins, l'influence du professionnel est importante, même si l'interaction se limite au strict minimum. Ainsi, on a démontré que la pression artérielle change pour une même personne en fonction de celui qui la mesure. Quand le médecin la prend, elle est plus élevée que lorsque c'est une infirmière et elle est encore plus basse quand le patient se la prend avec un tensiomètre automatique. Cet effet blouse blanche est si bien connu qu'aujourd'hui on recommande aux personnes traitées pour hypertension de la contrôler avec un appareil d'auto-mesure. Chez le médecin, la mesure est toujours fausse. Dans les pays anglo-saxons, on le sait depuis 15 ans. En France, on l'a compris depuis peu. Et donc là est cité un article du Figaro du 28 mars 2014 de Chaillet Delphine. Les médecins font grimper la tension de leurs patients. Alors voilà, bon, y a plein d'autres choses encore concernant le rôle que doit tenir le médecin par rapport à la déontologie aussi, etc.
Qu'est-ce que tu entends par là?
Ah bah, c'est-à-dire qu'il y a des situations, bah, il y a des citations de loi, par exemple, du code de la santé publique. On peut l'évoquer là, si on veut aussi.
Ça dépend. Est-ce que tu crois que tu aurais le temps de lire Knock?
Peut-être
là, pas.
Il reste 13 minutes. Alors, je sais pas.
Pas beaucoup, vaut mieux continuer, le faire une autre fois, peut-être. C'est ce que je te suggère qu'on revienne sur ce livre. C'est un peu comme pour les inventeurs de maladies.
Voilà.
Je pense que c'est un sujet super important.
Oui, on va faire.
Et que ça. Donc peut-être la prochaine fois pour Knock. Ok. Je sais pas. C'est comme tu le
dis. Knock maintenant ou Knock la prochaine fois. J'ai pas compris.
Parce que c'est peut-être un peu short pour que tu lises le premier chapitre de Knock.
Ah oui, parce qu'en fait c'est la seule partie de Knock, de la pièce de Knock qu'on n'a pas lu encore, c'est la première scène, la scène unique qui est en même temps le premier acte. Et donc, qui est plus long que.
Ouais, voilà, ils vont peut-être mieux réserver ça pour une prochaine scène. Fois où tu auras le temps de lire tout, peut-être. Là, on peut continuer là-dessus, je trouve que c'est.
Ça se mariera, en tout cas, bien ouais. volontiers, avec le livre que nous sommes en train de commencer à étudier.
Sauf que c'est super important quand même. Je trouve que si tu veux, il y a un truc dont j'ai souvent entendu parler. Je t'en parlais un peu tout à l'heure avec l'histoire du personnel raciste, quoi. Mais c'est un sentiment de mépris de classe, quoi, que j'ai ressenti en particulier. Enfin, quand t'es à la CMU, quand j'étais au ticket modérateur, la façon dont on était traité, ça avait rien à voir quand t'allais voir un médecin dans son cabinet personnel et quand tu allais à l'hôpital avec un ticket modérateur, c'est-à-dire un truc pour les pauvres et tout. On était traités vraiment comme de la merde. Et faut quand même voir aussi, je disais ça pour les psychiatres, mais c'est vrai aussi pour les médecins, il y a un aspect comme ça quand même. Hein. C'est des gens qui sortent quand même souvent de la cuisse à Jupiter. Je dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, de gens qui arrivent à faire des études de médecine en étant eux-mêmes issus d'un milieu défavorisé. Même dans un cas comme ça, les parvenus sont pas toujours les plus sympas avec ceux qui sont restés sur le bord du chemin. Oui. Donc, il y a un aspect comme ça aussi, je pense, qui doit beaucoup jouer, je pense. Et quand tu es obligé d'aller voir, bah, par exemple, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Je te parlais d'aller, comme je vais très très peu voir des médecins, enfin, quand je dis très peu, il faut vraiment que je sois au taquet, tu vois. Mais enfin, bon, quand tu es enceinte, tu es un petit peu obligé pour des tas de raisons. Et c'est un truc tout bête, mais par exemple, quand tu es pauvre, tu dois aller à l'hôpital et tu peux pas choisir ton gynécologue. C'est-à-dire que moi qui ai horreur d'avoir affaire à un médecin homme, sur ce plan-là, et ben toc, tu vois, tu prends celui qu'on t'a donné. Et c'est très très pénible, si tu veux. Et en plus, c'est vraiment l'usine, et ils te traitent vraiment comme un bout de viande. Et il y a le sentiment que pour eux, quelqu'un qui est un client de l'hôpital, c'est pas comme un client de son cabinet qui va peut-être quand même éventuellement un peu mieux traité, encore que tu dis ça doit dépendre aussi, mais je trouve qu'il y a un aspect comme ça qui est quand même important. Et déjà il y a la distance avec le patient, mais j'ai quand même tendance à penser qu'il y a cet aspect là, quoi, tu vois, qui joue beaucoup.
Oui.
Donc effectivement les mauvaises expériences, je crois qu'on en a encore plus quand on est d'un milieu défavorisé, quand on vient d'un milieu défavorisé. Tu vois, chez c'est bah oui, voilà, quoi. Oui. Je suppose que bah tu sais déjà il y a un truc, c'est que tu as des médecins qui demandent une rallonge. Enfin, je veux dire si tu veux aller les voir, il faut que tu payes plus cher.
Ah oui, oui.
Donc c'est vraiment réservé. Déjà, tu as plus de chances d'avoir, à un moment donné, c'est impossible, j'arrivais pas à avoir un gynécologue. Et le seul qui était dispo dans le coin, c'était quelqu'un qui fallait donner 20 euros de plus par consultation, tu vois. Donc déjà, tu te dis, ben, celui qui fonctionne comme ça, il faut que tu en aies pour ton argent. Enfin, et puis, tout de suite, ça veut dire que tu viens d'un milieu qui est plus proche du sien, quoi. Donc,
ouais, et puis ça frise un peu le dessous de table, quoi, un peu aussi peut-être.
Bah, et c'est pas vraiment le dessous, vu que c'est une pratique officielle.
Ah oui, d'accord.
Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de mystère, je pense que le médecin de Lady Di, c'était pas le médecin de Sabonich, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas de mystère, c'est des gens qui doivent effectivement être à la fois plus respectueux, parce que c'est quelqu'un qui est de leur milieu social, voire encore mieux. Tu vois, je veux dire, c'est logique qu'ils aient l'attitude de mépris de classe que tu as généralement, bah tu vas le retrouver là, avec des conséquences encore pires, quoi, d'une certaine manière. Tu vois, c'est vraiment... J'ai vraiment ressenti ça très très clairement et je te disais aussi que en ce qui concernait les souvenirs les pires dont je me rappelle, c'est envers mes enfants. Mes deux enfants ont dû subir une opération et même les infirmières, parce qu'on parle des médecins, mais les infirmières aussi, elles ont quand même un rôle à jouer, si tu veux, si tu sens quand même quelqu'un d'un peu bienveillant. Quand les gens t'insultent carrément, mon fils avait 5 ans, il se fait opérer des yeux, et quand il revient de l'opération, il pleure mes yeux, voilà, en sortant du... Et l'infirmière lui dit ta gueule, carrément. Tu n'as pas fermé ta gueule. Je me disais, mais j'y crois pas. J'ai dit, mais enfin, oui, mais il nous fait chier depuis tout à l'heure, on ne peut pas le tenir, il ne voulait pas y aller. Et tu te dis, c'est peut-être qu'il y avait peut-être un meilleur moyen de rassurer un enfant en bas âge que de l'insulter et de lui dire ta gueule, je ne sais pas. Et tu te dis, on a l'impression qu'ils n'ont même pas l'humanité la plus élémentaire, enfin, que c'est vraiment des machines, enfin, c'est affreux, quoi. Et puis c'est vrai que j'avais l'impression que si ça avait été un gosse de riche, elle se serait pas comportée de cette manière. Voilà.
Sans doute. Alors, les textes, le texte qui suit est donc une évocation de principes, beaucoup. Soigner, traiter, guérir. Soigner, c'est soulager la douleur et diminuer le malaise et l'inconfort, c'est atténuer la dépendance, l'assujettissement du patient à ce qui le mine. C'est l'aider à s'affranchir de la souffrance en tout ou en partie. Traiter, administrer un traitement, en revanche, consiste à effectuer un geste ou une action spécifique visant à un symptôme ou une maladie particulier ou particulière. Par exemple, administrer un antidouleur, effectuer un massage cardiaque, retirer chirurgicalement une tumeur. Traiter n'apporte pas toujours un réconfort. Un traitement impose parfois de recourir à des gestes violents et invasifs, pratiquer une injection, réduire une luxation ou une fracture, retirer un organe. Par conséquent, traiter fait partie de la démarche de soins, mais n'est pas synonyme de soigner. On peut soigner sans traiter. On peut aussi malheureusement traiter sans soigner et même quand on se contente d'administrer un traitement, être tout à fait maltraitant. La guérison, c'est le processus de réparation à l'issue duquel la maladie est complètement terminée et où, dans le meilleur des cas, le malade retrouve son état antérieur. Toutes les maladies ont un cours naturel, une évolution spontanée en l'absence de traitement. Les maladies bénignes évoluent le plus souvent vers la guérison sans traitement ni soins particuliers. Ainsi, le rhume de cerveau, un rhume bien soigné dure une semaine, un rhume mal soigné dure 7 jours, dit le vieil adage médical. Et la majorité des infections virales de l'enfant, qui provoquent un peu de fièvre pendant une nuit, disparaissent au petit matin. On peut guérir d'un cancer, parfois au prix de traitements lourds. On ne guérit pas d'un diabète, mais on peut en théorie en contrôler les symptômes et éviter pendant longtemps ses conséquences néfastes pour l'organisme. Et j'insiste sur une notion essentielle, quels que soient les soins et traitements qu'on délivre, nul n'a le pouvoir de guérir les autres. Qu'il s'agisse d'une pneumonie, d'une dépression ou d'une leucémie, quand la guérison survient, c'est toujours le patient qui guérit, avec ou sans l'aide des soignants. Soigner, alors on revient au concept de soigner, c'est partager. J'étais un jeune médecin généraliste installé depuis peu. Un jour, Madame A m'appelle et me demande pourquoi, alors qu'elle vient de commencer à prendre la pilule contraceptive que je lui ai prescrite, elle ressent des symptômes de grossesse. Ses seins sont douloureux, elle a des nausées le matin, elle a toujours faim et somnole. Cependant, elle n'est pas enceinte. Elle a fait un test, il est négatif. Que se passe-t-il ? Le principe de la pilule, très simple, consiste à imiter un phénomène physiologique. Une femme enceinte n'ovule pas. Les hormones contenues dans la pilule font croire au corps de l'utilisatrice qu'une grossesse est déjà en cours, ce qui met l'ovulation en sommeil. Et comme son ovulation est en sommeil, l'utilisatrice ne peut pas être enceinte. Mais parfois, le corps réagit un peu trop bien à cette simulation et tout l'organisme s'emballe, ce qui produit des symptômes de grossesse. Cette explication, je ne l'avais pas donnée à Madame A en lui prescrivant sa pilule. Faute de l'avoir prévenue de l'éventualité et du sens des symptômes qu'elle risquait de ressentir, j'ai ravivé sa crainte d'être enceinte. Quand je la lui explique en disant que très probablement les symptômes vont s'atténuer au bout de quelques jours, elle est rassurée. Quand elle me demande « Et si les symptômes ne disparaissent pas ?» je réponds « Alors ça voudra dire que cette pilule-là ne vous convient pas, je vous en prescrirai une autre. » Tout cela, j'aurais pu et j'aurais dû le faire lors de la première consultation. Cela faisait partie non seulement du soin, mais du partage de savoir indispensable. En m'interrogeant, Madame A m'a rappelé que soigner, ça n'est pas seulement écrire le nom d'un médicament sur un bout de papier. Elle m'a aussi appris à modifier mon attitude et à anticiper les questions. Dorénavant, je n'omettrai plus de décrire le mode d'action de la pilule. Et je saurai désormais que les vertus du partage d'informations dépassent largement le cadre étroit de la relation, entre guillemets, thérapeutique. Car une femme qui connaît le mécanisme et les effets indésirables de sa pilule peut les partager à son tour avec la sœur ou l'amie ou la voisine qui ressentent les mêmes symptômes. Partager l'information avec les patients, c'est leur permettre d'informer et donc de soigner les autres. Soigner, c'est questionner ce que l'on sait. Ce qui complique les choses, c'est qu'aucun savoir n'est définitif. Dans tous les domaines de la science, chaque jour, les connaissances s'accroissent, sont revues et font l'objet de corrections minimes ou de refontes étendues. L'approche scientifique consiste à rester toujours en alerte et à se questionner en permanence. Ce qui est vrai en astronomie, en physique, en chimie et en biologie, n'est pas moins vrai en médecine. Un médecin ne peut jamais savoir tout ce qu'il y a à savoir. C'est pourquoi la mise à jour des connaissances est une obligation inscrite dans tous les codes de déontologie moderne. Et parce que la médecine est un ensemble de savoir-faire destiné à servir l'autre, tout médecin devrait, par principe, réviser ses connaissances quand elles sont contredites par l'expérience sensible des patients. Et voilà pour aujourd'hui, peut-être. Mmh. Ou alors allez, je peux prolonger juste pour donner cet exemple qu'il donne par rapport à cette mise à jour des connaissances. Quand j'ai commencé à travailler au centre d'IVG, j'avais une trentaine d'années. J'avais vécu dans un milieu bourgeois, toutes mes partenaires sexuels depuis que j'avais 18 ans utilisaient la pilule. J'avais l'illusion, confortable pour moi, que la contraception était accessible à toutes les femmes. J'étais depuis toujours un fervent défenseur de la liberté d'avorter, mais je pensais en mon fort intérieur que si certaines femmes se retrouvaient enceintes avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, c'est parce qu'elles n'avaient pas fait assez attention. J'avais ce qu'on appelle une attitude paternaliste, je croyais en savoir plus que les femmes. Lors d'une consultation au centre d'IVG, Madame B entre, le visage défait, en me disant qu'elle est enceinte. Elle a déjà 4 enfants, et ni elle ni son mari n'ont le moindre désir d'en avoir un de plus. Elle a demandé à plusieurs reprises une ligature de trompe qu'on lui a refusée. Elle est à la fois en colère et désespérée, car elle prenait la pilule et ne l'a jamais oubliée. Ma première réaction consiste à émettre des doutes. Elle a pu oublier sans s'en rendre compte, ça peut arriver à tout le monde. En lui disant cela, je crois la déculpabiliser, mais elle soutient Mordicus qu'elle n'a pas raté un seul comprimé, elle en est certaine. Et elle ne se sent pas coupable, justement, elle est en colère. D'ailleurs, la plaquette porte les jours de la semaine. Si elle avait oublié un comprimé, elle ne pouvait pas ne pas s'en rendre compte. Lorsqu'elle quitte la consultation avec son rendez-vous d'IVG, je suis ébranlé par sa certitude. Je décide d'en avoir le cœur net. Peut-on être enceinte sans oublier le moindre comprimé ? Je ne trouve rien dans la littérature en langue française, mais dans plusieurs revues anglo-saxonnes, on répond clairement à la question. Afin d'être efficace, une pilule contraceptive doit apporter une quantité d'hormones suffisante pour endormir l'ovulation. Or, le corps humain n'est pas une machine, et toutes les personnes ont une physiologie différente. De ce fait, un certain nombre d'utilisatrices peuvent se retrouver enceintes sans avoir oublié le moindre comprimé parce que leur pilule est trop faiblement dosée pour elles. Quand je revois Madame B après son interruption de grossesse, je lui communique le résultat de mes recherches, je lui explique ce qui lui est arrivé et je lui propose de changer de pilule ou d'opter pour un stérilet. Soulagée, elle éclate en sanglots. C'est la troisième fois qu'elle est enceinte sans oubli. Les deux premières fois, son médecin a refusé de la croire et lui a prescrit de nouveau la même pilule. Elle avait peur que je fasse la même chose. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?»« Mon médecin ne m'avait pas cru. Je pensais que vous ne me croiriez pas non plus. » L'humilité n'est pas seulement indispensable à la réflexion scientifique, elle est aussi le meilleur moyen de montrer au patient qu'il est respecté. Quand le médecin l'écoute et suit les pistes qu'il lui indique, il peut bien sûr faire fausse route. Le patient pointe parfois le doigt vers ce qui lui fait le plus peur, pas toujours ce qui y est le plus vrai, mais au moins il fait fausse route avec lui. S'il est prêt à entendre ses hypothèses, le respect qu'il montre au patient incitera celui-ci en retour à écouter les siennes. Dès lors, ce qui compte n'est pas que l'un ait raison, l'autre tort, mais que, par l'examen, fait ensemble, des hypothèses de l'un et l'autre, ils en viennent à une compréhension commune de ce qui se passe.
Voilà. C'est très très bien. Est-ce que je peux faire une petite annonce ?
Absolument.
Voilà, donc c'est le groupe libertaire d'Ivry qui va faire un débat au mois de juillet. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde quand c'est les vacances, mais enfin bon, justement, on va, donc ça sera un peu, un film un peu festif, enfin festif peut-être pas tant que ça, mais enfin c'est un film de fiction qu'on avait déjà projeté dans le passé. Le thème de la discussion qui s'en suivra, on ne fait jamais de conférence, donc c'est vraiment une discussion, ce sera « La futurologie est-elle une science exacte ?» Et en fait, on va projeter « Soleil vert » de Richard Fleischer. Mmh. Et c'est un film qui date des années 70 et qui se passe en 2022, ce qui est vachement tard pour le... mais ce qui est déjà passé depuis 3 ans. Oui. Donc, c'est un peu une question rhétorique. Évidemment que ce n'est pas une science exacte, la futurologie. Mmh. Mais c'est un futur particulièrement apocalyptique. Je ne vous spoil pas sur ce qu'est réellement le soleil vert. Mais enfin bon, c'est un bon film en plus, hein, avec Charlton Heston. Et puis, je pense que le thème de la discussion sur les projections sur l'avenir peut être... Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse de discuter avec des gens sur ce sujet-là. Donc, ce sera le jeudi 10 juillet. On fera un accueil à partir de 18h30, mais la projection, ce sera vers 19h30. Et voilà, quoi. Donc, l'entrée est libre, évidemment. Et c'est à la librairie Publico, 145 rue Amelot, la librairie de la Fédération anarchiste. Et le métro, c'est Oberkamp, frais publics, Filles du Calvaire. Et donc, c'est le jeudi 10 juillet au soir. Voilà.
Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir. Nous vous disons à la semaine prochaine.